On va revenir sur un fait que nous vous relations hier. L'autorité palestinienne souhaite que le Conseil de sécurité des Nations Unies vote le 18 avril prochain pour que cette même autorité palestinienne devienne un membre à part entière de l'ONU. On en parle avec Yehuda Lankri, ancien ambassadeur d'Israël en France et surtout à l'ONU, pour avoir son avis éclairant sur la question. Il est à votre micro, Lucie.
Yehuda Lankri, bonjour.
Bonjour Lucie.
Vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Donc aujourd'hui, l'envoyé palestinien à l'ONU a déclaré que l'autorité palestinienne souhaite que le Conseil de sécurité des Nations Unies vote ce mois-ci, le 18 avril prochain, pour qu'elle devienne un membre à part entière de l'Organisation mondiale de l'ONU. Donc, alors tout d'abord, en tant que diplomate de carrière, qu'en pensez-vous? Quelles seraient les implications politiques et diplomatiques de cette adhésion?
C'est un objectif palestinien qui se signale depuis bien longtemps. Ils ont obtenu le statut d'État observateur, pas d'État membre, mais d'État observateur permanent, déjà depuis 2012, le 29 novembre 2012. Vous savez que le 29 novembre est une date hautement symbolique pour les Palestiniens, puisque c'est la date de la résolution, la fameuse résolution de partition de la Palestine du 29 novembre 1947. Alors, cela étant, et après avoir obtenu cette quasi-élection, si je puis dire, de l'État de Palestine, l'État observateur, adopté par l'Assemblée générale à une majorité de 130 voix, sur 193. Donc, c'est une belle élection, il faut le dire, mais encore faut-il que le Conseil de sécurité entérine cette recommandation de la Chambre générale. Et c'est là où se pose pour les Palestiniens la difficulté. Depuis 2012, ils essayent, en maintes occasions, et le 18 avril, ça sera une occasion, à condition que le Conseil de sécurité accepte de faire voter cette résolution, mais qui n'a aucune chance de passer parce que elle sera contrée par le veto américain.
Alors, c'est ce que j'allais dire, c'est une demande qui pourrait être bloquée par les États-Unis. Quel rôle les États-Unis pourraient-ils jouer ici? Pourquoi pourraient-ils s'opposer à cette démarche?
Parce que normalement, on accepte les recommandations de l'Assemblée générale quant à l'adhésion d'un membre en qualité d'État membre permanent lorsque certaines conditions sont remplies. Entre autres, il faut que ce candidat à la position d'État membre puisse démontrer qu'il a les qualités requises d'un État, c'est-à-dire les éléments constitutifs, dont, par exemple, l'élément territorial. Or, on sait que cette question est ouverte, qu'elle est en suspens. La Palestine des Palestiniens n'a pas encore son État territorial constitué. Cela dépend de la négociation et du statut définitif obtenu après l'accord d'Israël, quand il y aura un accord sur un État palestinien, ce qui n'est pas impossible. Ça peut être une question de quelques années. Mais il faut négocier le statut définitif qui est toujours en suspens depuis les accords d'Oslo. Il faut avoir cet élément constitutif fondamental qui est le territoire. Et ce n'est qu'après ça que l'on peut sérieusement examiner la demande des Palestiniens. Elle a été faite à l'Assemblée générale, mais le Conseil de sécurité pourra opposer, comme on l'a dit, au moins du côté des Américains, un veto, parce que, comme on le dit maintenant, c'est une démarche imparfaite. L'élément constitutif essentiel, c'est-à-dire l'élément territorial, n'existe pas chez les Palestiniens. Il est sujet à négociation.
Alors maintenant, j'aimerais évoquer un peu le contexte de cette demande, qui est celle du conflit israélo-palestinien, bien entendu. Comment cette initiative pourrait-elle influencer les relations entre les différents parties impliquées dans ce conflit, y compris Israël?
Alors justement, il s'agit, pour employer un anglicisme, d'un timing fort malheureux, puisque nous sommes en pleine guerre avec le Hamas. On n'imagine pas nombre d'un instant les États-Unis qui soutiennent l'objectif israélien de d'éradication du Hamas, voter pour la reconnaissance de la Palestine comme un État membre à ce moment précis de la situation. Il faudrait que l'autorité palestinienne, qui a la confiance en principe des États-Unis, moyennant évidemment sa réforme, les États-Unis demandent une réforme que les Palestiniens ont commencé à entreprendre. Ils ont changé de gouvernement. Les Palestiniens seraient des partenaires pour les Américains souhaitables au lendemain de la guerre, à condition que cette autorité palestinienne soit réformée sur différentes dimensions. Une fois que la chose est faite et qu'il s'installe à Gaza, à ce moment-là, on pourrait reprendre le dialogue et la négociation. Israël aurait affaire à ce moment-là à un interlocuteur, un, qui est l'autorité palestinienne, et non pas à deux interlocuteurs, dont l'un la reconnaît et le Hamas ne la reconnaît pas, souhaitant même sa disparition. Donc, les implications sont des implications directes et leur portée n'est pas négligeable. Il faut envisager d'abord l'étape d'une restauration de l'autorité palestinienne dans son autorité antérieure à Gaza, sa réforme, qu'elle donne toutes les preuves d'une volonté de paix avec Israël pour qu'Israël puisse renouer la négociation et probablement, peut-être, aboutir à un traité de paix avec l'autorité palestinienne. Ça prendra du temps.
Vous l'avez évoqué, donc cela nous mène à une autre interrogation, car on sait que justement la question de cette autorité palestinienne est justement une pomme de discorde lorsqu'on parle de la règlement du conflit entre Israël et le Hamas, et notamment en ce qui concerne sa capacité et sa compétence. Est-ce que cette autorité pourrait être considérée à l'avenir comme un interlocuteur valable pour les autres membres de l'ONU?
D'abord, pour le gouvernement israélien actuel, c'est un non-partenaire. Le gouvernement Netanyahou, tel qu'il est, dans la majorité de ses composantes, à l'exception de la branche, mettons, Gantz-Eisenkot, ne souhaite pas cette perspective, l'installation de l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza. Donc, quand nous aurons dépassé cette phase, quand il y aura un gouvernement israélien apte à accueillir l'autorité palestinienne dans la bande de Gaza, on pourra à ce moment-là renouer le dialogue et retrouver la voie de la négociation.
Et alors, ma dernière question, j'aimerais revenir sur un des, disons, des participants clés autour de cette demande d'adhésion. C'est également les États-Unis, on l'a évoqué. On a vu ces dernières semaines qu'il y avait des tensions diplomatiques entre les États-Unis et Israël. Est-ce que cette demande pourrait être utilisée comme arme diplomatique pour faire pression sur Israël, ou cela paraît inenvisageable?
Ce n'est pas envisageable, comme vous le dites vous-même, l'alliance américano-israélienne est autrement plus forte qu'on ne peut le supposer ou le percevoir. Il est normal qu'il y ait des dissensions dans une relation bilatérale, même avec les États-Unis d'Amérique, qui sont l'allié le plus fort et le plus certain aux côtés d'Israël. Ils n'iront pas jusque-là. Je voudrais ici rappeler que en 2012, lorsque les Palestiniens avaient essayé de faire avancer leur demande auprès du Conseil de sécurité, le président Obama, vous le savez, il était considéré en étant peu pro-israélien, mais le président Obama lui-même avait demandé à différents chefs d'État africains, qui à ce moment-là étaient membres non permanents du Conseil de sécurité, comme le Gabon par exemple, il avait demandé à ce que, dans les discours même des chefs d'État, n'apparaisse pas la clause de la reconnaissance, de l'État palestinien comme État membre. Donc, Je ne pense pas que les États-Unis, quelles que soient les tensions avec Israël, sont en train de se résorber, puissent utiliser cette perspective comme une arme contre Israël. Et là-dessus, les Palestiniens feraient mieux de tempérer parce qu'ils misent sur cette tension. C'est ce qui, d'ailleurs, les incite à déposer leur demande en vue du 18 avril, mais ils ne peuvent pas compter là-dessus.
Eh bien, Yehuda Lankri, merci beaucoup. Je rappelle que vous êtes ancien ambassadeur d'Israël en France et à l'ONU. Merci d'avoir répondu aux questions de Radio Judaïka.